France Culture.
Bonjour le Book Club. Ce qui m'a fasciné dans la bibliothèque retrouvée, ce sont les livres. Les livres constituent des indices, des pièces à conviction au sein d'une enquête familiale. Et j'adore les enquêtes. Celle-ci est érudite sans être aride. J'avais l'impression de lire un roman policier intime. Il ne s'agissait pas d'identifier un coupable, mais de deviner un héritage, et c'est magnifique.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui dans votre book club, l'histoire d'une bibliothèque dispersée. Fondée au XVIIIe siècle en Poméranie orientale dans un château, la bibliothèque de Plate est percutée par la violence de la Seconde Guerre mondiale après laquelle elle est disséminée. Ne reste d'elle que le souvenir d'une collection exceptionnelle d'ouvrages, dont un par exemple, conservé mélancoliquement par un homme qui parle souvent de ses rayonnages mythiques à l'heure du thé. Hantée par l'idée d'une transmission manquée, Vanessa de Sénarclan se lance dans une enquête qui brosse le portrait des personnes ayant nourri cette bibliothèque à travers les siècles, mais aussi produisant en chemin un portrait historico-géographique de la Prusse des Lumières jusqu'à l'horreur nazie. Elle est notre invitée pour son livre « La bibliothèque retrouvée » paru aux éditions Zoé. En fin d'émission, nous jouons à chercher de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Et bonjour Vanessa de Sénarclan.
Bonjour.
Votre livre a paru aux éditions Zoé, il est sous-titré « Une enquête » et c'est vrai que c'est une enquête et que ça fait plaisir, c'est un des plaisirs de lecture. Bienvenue dans le Book Club. Je fais juste une petite aparté puisqu'on va beaucoup parler de livres et de bibliothèques pour dire que les inscriptions du prix Roman des étudiants France Culture sont toujours ouvertes. On peut toujours s'inscrire pour devenir juré de ce prix réjouissant, c'est jusqu'au 12 octobre minuit. Si vous avez autour de vous des étudiantes, des étudiants, parlez-en. Si vous êtes vous-même étudiante ou étudiant, rejoignez-nous. Toutes les infos sont à lire sur franceculture.fr et je rappelle que le principe, c'est de pouvoir rencontrer les autrices et les auteurs d'une sélection d'ouvrages qu'on vous propose cette année, les rencontrer sur place, dans vos universités ou en ligne, et ensuite discuter et voter pour votre lauréat. Jusqu'au 12 octobre minuit, on reçoit vos candidatures. Alors, pour entrer dans ce livre-là, dans cette enquête, Vanessa de Sénarclan, on a besoin d'un petit point, j'allais dire historique ou géographique, mais même plutôt topographique. On va partir de la très belle couverture de votre livre, toujours très bien soigné par les éditions Zoé, mais là, ça fait encore plus sens. Qu'est-ce qu'on voit sous la couverture du livre et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir conscience d'un espace géographique, topographique, imaginaire dans lequel on va être là pendant une heure ?
Alors, ce que vous voyez, c'est un détail, le détail d'une carte qui date du début du XVIIe siècle, qui s'appelle la Grande Carte du Duché de Poméranie. C'est une carte qui est immense, qui fait presque 2,40 m de long et 1,20 m de large. C'est une immense carte. Et ce que vous voyez au milieu, c'est le fleuve de l'Oder qui, aujourd'hui, sépare la Pologne de l'Allemagne. Et en ça, effectivement, cette indication est importante pour ce livre parce que la bibliothèque dont il est question dans cette enquête se trouvait en Poméranie orientale, où on disait Poméranie ultérieure. Et puis aujourd'hui, elle se trouve en Pologne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en Pologne, elle se trouve dans une Poméranie que les Polonais qualifient en polonais de Poméranie occidentale. Donc vous voyez, les questions
De frontières.
De frontières et aussi de perspectives sont tout de suite au centre. Et effectivement, c'est sur la carte, ce détail, ce sont des hommes qui traversent le fleuve. Alors, le fleuve, évidemment, ça évoque le fleuve de l'oubli. Et effectivement, ce livre, est en lien avec des questions de mémoire et d'oubli aussi.
Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'emblée qui est presque, on va dire, amical ou avec des correspondances entre une bibliothèque et cette cartographie-là, mais aussi dans la manière dont c'est fait? Donc c'est 1618, cette grande cartographie, cette grande carte topographique. Qu'est-ce qui pourrait d'emblée faire signe pour vous, Vanessa de Sénarclan, entre cette grande carte et ce que c'est qu'une bibliothèque?
Au début du au XVIe, au XVIIe siècle, on a souvent fait des collections de livres, mais on associe à ces collections d'autres objets, et aussi des cartes, des cartes ou des pièces de médailles. En l'occurrence, cette bibliothèque, elle a été fondée au milieu du XVIIIe siècle, dans cette Prusse francophone et francophile de Frédéric II. Et puis, elle est devenue assez vite, peut-être au bout d'une quinzaine d'années, elle est devenue un lieu, un haut lieu de savoir sur ce fameux duché de Poméranie qui disparaît en fait déjà en 1648. Donc le collectionneur, le premier collectionneur de cette bibliothèque, s'est assez vite intéressé aux traces, aux fragments, aux éléments qui restaient suite à une guerre qui avait été sanglante, qui avait été épouvantable pendant 30 ans, la fameuse guerre de 30 ans qui dissémine et qui fait disparaître ce duché de Poméranie.
Donc d'emblée, il y a aussi l'idée d'une bibliothèque qui se constitue pour répondre au risque de disparition, pour répondre à la guerre. Vous écrivez dans une très belle phrase que c'est une fragile entreprise humaine contre les autres entreprises humaines que sont les attaques permanentes, les entreprises de destruction. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se joue dans votre texte, qui pense ce que c'est qu'une bibliothèque, Vanessa de Sarclan. Alors, de Sénarclan, il y a dans le book club, en introduction, toujours ce qu'on appelle le questionnaire lecture, pour demander à nos invités leur rapport à la lecture. Peut-être vous, je peux vous interroger sur votre rapport aux bibliothèques ou à la bibliothèque, avant même qu'on parle de cette grande bibliothèque dont vous faites le portrait dans votre livre.
Alors, je suis une amie des bibliothèques, j'aime les bibliothèques depuis toujours, je m'y sens très bien, j'ai fait ma carrière universitaire dans des bibliothèques, en commençant par la bibliothèque publique universitaire de Genève, qui était, à l'époque où j'étudiais à Genève, avait une galerie avec des portraits de pasteurs qui nous regardaient d'un air assez sévère, quand on avait le regard qui était distrait. Et puis maintenant, à Berlin, il y a deux bibliothèques que j'aime beaucoup et que je fréquente et qui sont complètement différentes.
Alors,
de l'autre.
Décrivons-les.
Alors, il y a la bibliothèque du Kaiserreich, du début de l'Empire, qui se trouve en bas du boulevard Unter den Linden, donc le fameux boulevard qui a été construite au début du XXe siècle et qui est très pompeuse, avec des grands escaliers, une cour qui est vraiment un lieu très solennel, mais aussi très magnifique, qui vient d'être restauré, et où la communauté turque de Berlin vient récemment, souvent, se faire photographier et se prendre en photo de mariage, parce que c'est un lieu tellement
grandiose.
Ouais, absolument, très grandiose, vraiment. Et l'autre bibliothèque que j'aime beaucoup, c'est la bibliothèque qui avait été construite pendant la division de Berlin, c'est-à-dire l'autre Staatsbibliothèque qui se trouvait à Berlin-Ouest et qui est une autre Allemagne, qui est l'Allemagne d'après le désastre, qui a été construite par le même architecte que celui qui a construit la Philharmonie, avec aucune envie de représentation, mais le besoin de mettre au centre de la bibliothèque le lecteur. Donc c'est une bibliothèque qui paye pas de mine, qui est même peut-être l'air pas très jolie quand on la voit de l'extérieur, mais qui est absolument fabuleuse pour y travailler.
Voilà. Parce que vous êtes concentré.
Parce qu'on est concentré, il y a des moquettes, je sais pas, c'est une atmosphère très, très particulière, une belle concentration.
Alors on va nous se lancer dans cette bibliothèque de Plate, à la recherche de cette bibliothèque de Plate. Votre titre, La bibliothèque retrouvée, peut pourquoi pas faire signe vers le dernier chapitre de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust et ce temps retrouvé. Il y a quelque chose en tout cas d'une traversée des temps que vous proposez, Vanessa de Sénarclan. Et on va commencer par un meuble qui vous met la puce à l'oreille.
De la bibliothèque, il reste le catalogue affiche. C'est un meuble de bois clair, datant du début du XXe siècle, marqué du sceau métallique d'un magasin d'imprimerie spécialisé de Leipzig, la Bourg Binderei Gustav Fritsch. Il est fonctionnel, avec ses quatre blocs empilés les uns sur les autres et ses 16 tiroirs qui contiennent des milliers de fiches cartonnées, séparées par des intercalaires thématiques. Chaque carte décrit un volume, le titre, l'auteur, le format, la date et le lieu de parution, mais donne aussi parfois des informations bibliographiques supplémentaires. On y trouve, pliés au format des tiroirs, des découpures de revues ou des lambeaux de texte tapés à la machine, soulignant l'importance d'un livre ou son lien avec un autre au sein de la collection. C'est un inépuisable système de renvoi, un univers dense et autonome avec ses secrets. Des générations de lecteurs se côtoient dans cette tour mausolée d'un savoir suranné, comme le meuble à tiroir qui soupire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. À chaque fiche correspond une cote composée d'une enfilade de chiffres romains, arabes et de lettres qui étaient aussi collées dans le plat du livre, sous l'ex-libris et sur un médaillon ovale au dos de la couverture. Elle désignait l'emplacement du livre dans une travée, sur un certain rayon à une position précise entre deux volumes. Chaque livre s'intégrait ainsi à un ordre systématique qui avait présidé à l'architecture de la bibliothèque lorsqu'elle avait été modernisée au début du XXe siècle. De cet espace plein, fait de galeries organisées au niveau relié par des petits escaliers en bois sombre, il ne reste aujourd'hui que le catalogue. La grande salle est vide, les livres dispersés entre la Russie, la Pologne et l'Allemagne, avec pour marque de leur provenance les ex-libris et les anciennes cotes, s'ils n'ont pas été arrachés depuis.
Dans votre livre La bibliothèque retrouvée, Vanessa de Sénarclan, on a la chance d'avoir quelques photographies. Vous glissez, pour notre curiosité, des photographies de quelques objets, de quelques ouvrages, de quelques manuscrits, de quelques tableaux que vous rencontrez dans cette grande enquête. Et ce meuble affiche, qu'on peut voir page 17, et puis un détail de ces fiches page 55. C'est vrai que c'est prodigieux, ça crée une émotion forte et ça rend extrêmement curieuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand vous découvrez ce meuble, où est-ce que vous le découvrez et qu'est-ce que ça provoque chez vous ?
J'ai découvert ce meuble, en fait c'était un non-événement, parce que ce meuble il était là, il était présent dans la maison de mes beaux-parents qui habitaient une maison près de Bonn, près de l'ancienne capitale allemande. Mais c'était un meuble qu'on voyait pas. C'était un meuble qui était là et qui n'était pas intégré à la vie, en fait.
Donc, on n'y touchait pas. Il y avait le téléphone qui était dessus.
Voilà, le téléphone était dessus. Et en fait, vraiment, j'ai découvert ce meuble au moment où il a fallu vider cette maison et se demander quoi faire de ce meuble. Et en fait, ce meuble, c'était un meuble à la fois un peu morbide, parce que faire avec le catalogue d'une bibliothèque qui n'existe plus?
Concrètement, hein, c'est une colonne en bois, donc voilà, c'est un meuble à fiches, on tire les tiroirs et ensuite il y a tout ce...
Mais est-ce qu'on vide
des anneaux de ferraille sur lesquels il y a ces petites fiches cartonnées, écriture à la plume et tout un tas de cotes des livres contenus dans cette fameuse bibliothèque.
Voilà. Et donc c'était un problème plus philosophique qu'il n'y paraît. Que faire avec une bibliothèque dont il manque les livres, en fait, avec le catalogue d'une bibliothèque dont il manque.
Vous savez d'emblée à quoi ça renvoie?
Je sais à quoi ça renvoie, mais je comprends pas très bien l'ampleur de cette bibliothèque. Il a vraiment fallu que je m'intéresse à ce meuble et à ses cartes et à l'organisation de la bibliothèque pour comprendre l'ampleur de cette bibliothèque. Si vous voulez, dans ma belle famille, on parlait beaucoup de la Poméranie comme d'une terre perdue, comme un Heimat. On parle de Heimat.
C'était, on habitait de pays.
Voilà, il y avait une grande nostalgie pour une terre perdue, et la Poméranie faisait partie des objets perdus, mais pas vraiment à part entière. Ça faisait partie de toute une vie qui avait disparu.
La bibliothèque était prise dans cette vie disparue, mais en tant que telle, elle n'était pas considérée comme un objet perdu sur lequel s'exprimait cette nostalgie.
Elle n'était pas en particulier l'objet de la nostalgie. Voilà. Oui.
Donc à partir de ce meuble affiche, qu'est-ce que vous découvrez, Vanessa de Sénarclan, qui vous ouvre à l'idée qu'il y a cette grande bibliothèque constituée de 7000 ouvrages, qu'elle a été constituée depuis le début du XVIIIe siècle, par quelqu'un en particulier, mais ensuite dans une sorte de relais un peu inégal dans la motivation de la constituer? Par quel fil vous commencez?
Bon, les années passent. Il a fallu d'abord que on a envoyé ce catalogue dans un centre de recherche à Marbourg, en se disant ça intéresserait peut-être des historiens qui sont spécialisés de la Poméranie. Puis il se passait rien. Et à un moment où personne s'intéressait à ce meuble, et donc je me suis tout d'un coup sentie responsable de ce meuble. Et je l'ai pris chez moi. Et depuis,
avec les fiches dedans,
avec tout, avec les fiches dedans, et j'ai commencé vraiment à les étudier, à comprendre. D'abord, ce qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup motivée, c'est que cette bibliothèque n'était pas du tout une bibliothèque au début spécialisée sur un duché de Poméranie dont personne ne connaît plus rien. Mais c'était au début vraiment une bibliothèque des Lumières. Mmh. C'était une bibliothèque qui avait été fondée dans l'orbite de Frédéric II, de cette Prusse francophile, mais très orientée sur les Lumières. Il faut savoir qu'à Berlin ou à Potsdam, au milieu du XVIIIe siècle, énormément d'auteurs viennent publier leurs textes qui sont sinon interdits ailleurs en Europe. Donc c'est un lieu
de liberté.
De liberté relative, parce que Frédéric II est quand même un monarque assez autoritaire, mais en termes de liberté de publier, il est vraiment, c'est un paradis terrestre. Et donc, et puis en plus, il y a toute cette diaspora protestante, à la nébuleuse huguenote qui est là. Donc, le français est important. Et donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est à quel point cette bibliothèque avait d'abord été une bibliothèque des Lumières, avec des textes interdits, des textes clandestins, des ouvrages qui concernaient la philosophie de Spinoza, des textes qui pouvaient valoir aux libraires qui les imprimaient de sérieux ennuis, mais qui, en Prusse, étaient relativement protégés.
Et ça, vous le découvrez en regardant ces fiches.
Voilà, en regardant ces fiches et en m'intéressant aux rubriques. Et puis, les découvertes en amènent d'autres. C'est-à-dire qu'évidemment, je me suis intéressée après. J'ai commencé à chercher tous azimuts, comme on le fait quand on fait de la recherche. Et puis, il y a certains hasards qui ont voulu que j'ai retrouvé à la Staatsbibliothek, qui sont celles dont je vous ai parlé au début de l'émission, j'ai retrouvé dans le fond d'un savant du XVIIIe siècle le premier catalogue de la bibliothèque, c'est-à-dire le catalogue de 1756. Donc c'était pour moi fascinant d'avoir le premier catalogue, qui n'est pas un catalogue à fiches, mais qui est un cahier A4 dans lequel...
Un inventaire.
Ouais. Un inventaire. Mmh. Et donc c'était fascinant d'avoir ce premier document et... ce catalogue affiche. Et autour de ça, j'ai pu commencer à poser des bonnes questions. Parce que c'est souvent ça, la recherche. C'est pas tant de chercher que de poser les bonnes questions.
Et alors justement, quelles bonnes questions ? Il se trouve que bien plus tard dans le livre, vous arrivez à des grandes questions, Vanessa de Senarclan, c'est-à-dire pourquoi on constitue des bibliothèques ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que de constituer des bibliothèques ? Avec quelle énergie on se dit « je vais consacrer du temps, de l'espace dans ce château à réunir des livres, à prendre soin à ce qu'ils traversent les siècles ?» Vous arrivez à cette grande question-là. Est-ce que ça fait partie des grandes questions que vous vous formulez à ce moment-là ?
Oui, absolument, parce que effectivement, on peut avoir un regard très critique en disant finalement, la bibliothèque au XVIIIe siècle, c'était une forme de statut symbole, et qu'on voulait avoir une bibliothèque pour montrer à quel point on était riche et à quel point
un bien matériel comme un autre.
Mais je crois que ça serait injuste de dire ça, parce que je pense que le fondateur de la bibliothèque au XVIIIe siècle se retire dans ses contrées éloignées en Poméranie et qu'il est en fait assez seul. Et donc il constitue un univers...
Donc assez peu de jouissance sociale de cette
bibliothèque. Voilà, et c'est donc la bibliothèque est la clé de son autonomie. Et de ses liens avec d'autres savants avec lesquels il entre en correspondance. Il écrit à des académiciens qui sont à Bâle ou qui sont à Berlin. Donc cette bibliothèque, ça devient un outil de travail, un outil de spécialisation. Et puis, je crois qu'au tout début, il s'est intéressé à des livres interdits, des livres peut-être qui étaient vraiment dans l'esprit des Lumières, de remettre en question les choses, des livres rationalistes, des livres très critiques de la religion, mais que sa collection et que son goût évolue et que peut-être au vu de ce qu'il voit, de ce qu'il sent en vivant dans cette campagne, il ressent le besoin de retrouver la trace du duché de Poméranie perdu. Donc très vite, sa collection devient une collection des objets de Poméranie qui avaient été aussi complètement détruits au moment de la guerre de 30 ans.
Et là, ça ouvre une autre question, c'est-à-dire qu'on a la première grande question dont vous parliez, Vanessa de Senarclan, et la deuxième question, c'est comment, en découvrant un inventaire, alors certes, là, c'est un très grand inventaire parce que c'est une très grande bibliothèque. Comment on peut suivre le chemin de vie de quelqu'un, le chemin de pensée de quelqu'un ou le chemin de pensée et d'histoire d'une famille? C'est-à-dire, c'est aussi l'hypothèse que fait votre livre. C'est qu'en suivant le destin d'une bibliothèque, on retrace des choses bien plus larges que la seule bibliothèque.
Absolument. En fait, c'est des portraits. En fait, ce sont des portraits. Montre-moi ta bibliothèque et je te dirai qui tu es. Je trouve assez valable comme remarque. Et ce qui est touchant, c'est qu'effectivement, il y a eu des générations de lecteurs et de lectrices aussi. C'est important dans ce livre. Et j'ai en partie retrouvé les livres. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est qu'il y a eu énormément de bibliothèques qui ont simplement disparu en brûlant ou en étant utilisées pour colmater des nids de poules dans les rues.
Vous dites que ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Donc, tous les livres existent encore. Et ces livres, j'ai pu en partie les retrouver. Et ce qui est très touchant, c'est de voir à quel point cette bibliothèque a été utilisé, et il y a eu des lecteurs qui posaient leur notice dans les marges des livres, qui commentaient les ouvrages de Voltaire ou d'autres, et où j'ai retrouvé des fleurs séchées, des pensées dans des œuvres complètes de Voltaire en Pologne, vous voyez. Et ça, c'est assez troublant, cette transmission comme ça.
On va venir à la très grande matérialité des archives que vous travaillez beaucoup dans ce livre, Vanessa de Sénarclan. Mais si vous avez retrouvé beaucoup de ces livres-là, c'est bien qu'à un moment donné, ils ont été disséminés. On va donc venir au moment où cette bibliothèque disparaît.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le 2 mars 1945, Elisabeth note. Karl a téléphoné à 16h de Plate. Dieu merci, la ligne fonctionnait encore. L'état-major lui propose d'évacuer ses trésors dans un wagon de marchandises. Il peut nous emmener. Nous devons décider vite. Le train part demain à l'aube. Une demi-lune basse brillait encore, et bientôt le crépuscule de l'aube a commencé à poindre et le soleil à se lever. Lorsque nous sommes arrivés sur la grande route à Pimpenburg, les voitures de la Wehrmacht se succédaient à notre rencontre, avec des canons et des chars.
Je le disais en introduction de cette émission consacrée à cette fameuse bibliothèque, bibliothèque retrouvée, Vanessa de Sénarclan, qu'elle est percutée, tout comme l'est cette région de la Poméranie orientale, par la violence de la Seconde Guerre mondiale. Mais en cette date tout particulière, du 2 mars et du 3 mars 1945, qu'est-ce qui se passe pour Plateau ? ce jour-là et quelles conséquences ont ces deux dates particulières évoquées dans les notes d'Elisabeth pour la bibliothèque.
Alors, le 3 mars 45 est un jour absolument dramatique pour la petite ville de Plate, parce que c'est le jour où l'armée rouge déferle sur la ville et les nazis, le parti n'a pas donné l'ordre à la population d'évacuer. Jusqu'au 2 mars ou au 1er mars, on ne pouvait pas partir de la ville sans être considéré comme un traître à la patrie. Donc, il y a une femme qui est partie avec ses enfants quelques jours plus tôt pour les sauver et qui a été pendue. Donc, vous voyez,
personne ne veut partir.
Personne n'avait le droit de partir et en même temps, on entendait au lointain les bombardements et l'armée rouge qui arrivait. Et donc, en fait, la population fuit à toute vitesse, de manière absolument dramatique. Des bombes tombent et en fait, la bibliothèque est prise dans cette tourmente parce que la Wehrmacht a encore proposé d'évacuer une partie de la collection au moyen de deux wagons. Un des wagons n'arrivera jamais sur les rails, le deuxième wagon est mis sur les rails et le dernier propriétaire de la bibliothèque est face à une sorte de dilemme moral. Il peut pas évacuer sa collection, il doit d'abord évacuer des femmes, des enfants et des humains. Donc il évacue le catalogue, le fameux catalogue, et quelques manuscrits. Il a suivi le testament de son aïeul de 1766 qui avait dit en cas de grande détresse et de grande misère, il faut évacuer avant tout, il faut sauver avant tout les manuscrits. Il fait ça, mais il évacue aussi 17 femmes et enfants qui, on peut l'avancer, auraient sinon très probablement pas survécu à ces journées.
Alors, petit aparté, Vanessa de Senarclan, peut-être pour poursuivre ensuite la manière dont cette bibliothèque est disséminée, c'est comme s'il y avait dans cette bibliothèque contenu en permanence un manuel de sauvetage. En permanence, vous dites, et il n'y a pas que vous d'ailleurs, il y a aussi un texte qui dit, ces gens, ces hommes travaillent pour l'avenir et ne cessent de penser à comment sauver cette bibliothèque en cas de péril.
Oui, je pense que depuis le début de la bibliothèque, il y a l'idée de devoir sauver quelque chose. Je vous le disais tout à l'heure, je pense que le fondateur a eu sa période rationaliste, lumière, etc. Et qu'il l'était, c'était un homme des Lumières, mais qu'il a très vite eu le souci de conserver des fragments épars d'histoire, des documents, des parchemins, des premiers témoignages, des récits de voyage qui étaient seulement manuscrits. Il s'est dit il faut que quelqu'un s'en occupe et les conserve. Et ce souci de conservation et de transmission est effectivement, je dirais, un fil rouge.
Oui, parce que ça va jusqu'à vous qui vous-même avez des conversations avec la belle-famille, puisque finalement c'est l'histoire de votre belle-famille. Et vous parfois, vous heurtez à un sens des choses qui n'iraient pas vers une bataille pour la transmission, en tout cas non. Pas le souci qui serait le vôtre.
Non, mais ça il faut le comprendre à la lumière de la catastrophe allemande en fait. Et quand même
déplions-le peut-être parce que c'est une des choses qui se passe dans.
Si vous voulez, je crois que si je réfléchis, quand je suis arrivée dans cette famille, moi je viens d'un pays qui a été vraiment très gâté par l'histoire, qui a été épargné par les deux guerres mondiales et j'ai compris en me confrontant avec ma belle-famille à quel point la Deuxième Guerre mondiale constituait une culpabilité immense, même si ma belle-famille, c'était pas des nazis, mais quand même, ils faisaient partie d'une élite culturelle qui n'a pas su faire front aux nazis. Et donc, cette mémoire, j'utiliserais le terme de Ricoeur, la mémoire empêchée, c'est-à-dire qu'il y avait des objets, il y avait ce catalogue affiche avec un téléphone dessus, il y avait des choses dont on pouvait pas se dépasser, c'était impossible de s'en débarrasser. D'un autre côté, on pouvait pas vraiment reprendre le relais. Il y avait une rupture.
Parce qu'en fait, ça aller travailler la mémoire de cette bibliothèque, c'était aussi réouvrir la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque la date de 1945 et cette date de la fuite, et puis la position particulière quand même de cette très grande bourgeoisie à l'égard de tout ce qui se passe autour, était presque difficile à relire. Il y a quelqu'un qui vous répond, je ne sais plus très bien, qui vous cite Nietzsche en disant « accueillons l'oubli, enfin ce sera aussi plus facile ».
Oui. D'un côté, il y avait mes beaux-parents qui étaient assez âgés quand je les ai rencontrés, qui avaient plus de 80 ans, qui avaient vécu une vie avec des ruptures existentielles absolument dramatiques. Mon beau-père avait été en Russie jusqu'en 48. Donc après, quand il revient, l'idée c'est de reconstruire, de pouvoir acheter des chaussures pour son petit garçon. C'est vraiment des besoins matériels qui priment. Et je pense que leurs enfants, eux, Oui, et mes beaux-parents ont vécu une vie, je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas tellement en France, c'est à quel point le nombre de réfugiés qu'il y a eu après 45. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie des réfugiés de l'Est. Donc ils étaient en Allemagne de l'Ouest, mais ils avaient une identité de réfugiés. Déjà, ils habitaient en terre catholique alors qu'eux étaient protestants. Ils connaissaient pas les cultures de la Rhénanie. Pour eux, tout ça était très étrange. Et donc, c'était des réfugiés qui voyaient d'autres réfugiés, également protestants, également avec des histoires de châteaux perdus, et qui restaient entre eux. Et pour leur fils, c'était compliqué cette histoire parce que c'était lié à une nostalgie qui permet pas vraiment d'avancer dans la vie. Donc, pour la génération d'après, il y avait une sorte de rejet par rapport à toutes ces histoires dont on voulait un peu se débarrasser pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau.
Alors, on revient à cette date de mars 1945, et donc le propriétaire de ce moment-là de la bibliothèque décide, et encore merci, de mettre dans ce grand wagon de marchandises plus d'humains que de livres, et il sauve le catalogue de cette bibliothèque à propos de laquelle vous enquêtez, Vanessa de Sénarclan. Mais alors, qu'est-ce qui arrive aux milliers d'ouvrages réels, concrets, dont vous dites qu'ils sont atomisés, disséminés? Ensuite, on explose la géographie de cette bibliothèque, puisqu'ils vont partout dans le monde. Ces livres-là, comment?
Alors, l'avantage de cette bibliothèque, c'est qu'elle se trouvait dans un château qui était le château de la ville en question. Et donc, quand l'armée rouge arrive dans cette ville, ce qu'ils ont fait la plupart du temps, c'est qu'ils ont investi ces lieux comme quartier général. Donc, dans un sens, ça a protégé les livres, parce que d'emblée, il y avait une structure. C'était conservé. C'était peut-être conservé des pilleurs ou de gens qui auraient pu se servir d'ouvrage pour faire chauffer la cheminée. Donc, la bibliothèque est conservée. Et l'armée rouge et les soviétiques restent jusqu'en 47 en Poméranie. À ce moment-là, la Poméranie devient vraiment du ressort de la République populaire polonaise. Et les livres, certains livres sont emportés par l'armée rouge. Il y a eu une commission qui était à la... Une femme dirigeait cette commission qui s'appelait Margarita Rudovino, qui s'est occupée de prendre des livres qui étaient jugés importants.
Comme des biens.
Comme des trophées, en fait, pour l'Union soviétique. Et ces livres, alors, donc certains des livres de la bibliothèque ont été emportés et se trouvent maintenant, encore aujourd'hui, dans des bibliothèques russes, où il y en a une, il y a un ouvrage que j'ai pu repérer en Sibérie. Mais la plupart des ouvrages sont restés sur place et sont devenus la propriété du nouvel État polonais. Mais ça a pris du temps parce que la Pologne a été, si vous voulez, décalée de 200 kilomètres plus à l'ouest. Et donc la Pologne a dû s'approprier ces terres. Et tout ça a pris du temps. Mais ce qui a été une chance pour la bibliothèque de Plate, c'est que la plupart des volumes, 13 000 volumes, se trouvent dans la bibliothèque universitaire de la ville de Lodz. Et donc j'ai pu les consulter sur place et ils sont pas réunis ensemble comme une collection, mais ils existent encore.
Donc après, c'est votre savoir de cette collection, et on en revient à ce que vous disiez de votre première découverte du catalogue du 18e et puis de ce fameux meuble affiche. Vous savez, vous êtes presque la mémoire, on va dire, de cette bibliothèque complète, mais les corps des livres, eux, restent disséminés. On va écouter la voix de l'historienne Annette Wiaworka à parler justement de la matérialité de l'archive et de la manière dont, pour écrire en historienne, elle fait se rencontrer cette matérialité-là et les témoignages et les entretiens.
Le témoignage et l'archive sont des compléments indispensables, et c'est une extraordinaire richesse quand on peut disposer des deux. Bénissons l'archive, oui. Parce que c'est elle qui permet de reconstituer quand même beaucoup de choses. Et puis parfois, un tout petit détail. Dans un petit détail, vous pouvez réimaginer, parce qu'il faut aussi un peu d'imagination, une vie. Donc l'archive est indispensable, mais il faut la regarder avec circonspection. Il y a un frisson, il y a une joie extraordinaire. Je note quelque part que la joie du chercheur, quand il trouve un détail qui n'intéresse que lui, elle est difficile à décrire, elle est difficile à comprendre. Mais il y a aussi de l'émotion. Et l'écriture qui n'a pas la contrainte universitaire, elle peut laisser l'émotion. Alors, je ne dis pas le pathos, hein, mais l'émotion.
La voix de l'historienne Annette Viverka en 2022 sur France Culture dans l'émission Le cours de l'histoire, qui parle vraiment de cette émotion-là. Alors, on l'a peu dit depuis le début, mais vous êtes une universitaire, vous êtes une chercheuse, vous produisez aussi des écrits scientifiques, Vanessa de Senarclan. Est-ce que vous avez, vous le racontez dans votre livre, peut-être un ou deux exemples de moments où les archives matérielles vous permettent de trouver l'émotion qui vous fait écrire autrement, qui vous permettent de donner chair et donc de transmettre quelque chose de l'esprit de cette bibliothèque?
Oui, absolument. Alors, les archives ont un rôle très important pour moi. J'ai beaucoup aimé le passage que vous venez de faire entendre. Je pense aussi à Arlette Farge, qui parle du goût de l'archive.
Quel titre
dans ce livre ? C'est le goût, effectivement, c'est un goût parce que c'est quelque chose qui est des rencontres avec des vies oubliées, avec des vies minuscules. Il y a quelque chose de sensoriel, il y a quelque chose de très émouvant. Et les archives, là où je crois que c'est vrai ce que dit Viavorka, c'est qu'effectivement, elles sont fragmentées, elles sont incomplètes. Donc, on ne peut pas produire avec l'archive des grands discours comme certains politiciens les tiennent. C'est beaucoup plus compliqué. On est dans les nuances, on est dans la complexité, on est dans
l'imagination
peut-être,
parfois. Ouais.
On est dans l'hypothèse. Et donc, on est sensible, quand on est dans une archive, à une certaine forme d'honnêteté vis-à-vis du passé. On ne peut pas parler comme ça à la place des autres. On doit essayer vraiment de comprendre ce qu'ils voulaient dire et on ne peut pas s'approprier leur voix. Donc il y a quelque chose d'une forme de retenue qu'on peut avoir aussi grâce à l'archive. Oui, alors pour répondre à votre question.
Mais tout à l'heure, vous avez cité ces fleurs séchées, prises dans des livres. Bon, ça, c'est quelque chose. Des annotations, peut-être, certains manuscrits.
Bon, il y a eu beaucoup d'archives qui ont joué un rôle. Il y a un bâtiment très amusant à Berlin qui s'appelle Geheimstaatsarchiv, donc l'archive secrète de Prusse, qui est un lieu très amusant auquel j'ai souvent été. Mais peut-être les premières archives qui ont joué un rôle important dans mon enquête, c'était les archives familiales, en fait. Ma belle famille avait tendance à tout garder ou à garder toutes sortes de documents sans vraiment en parler.
Comme quoi ? Parce que c'est là aussi toute l'ambivalence du rapport à la mémoire. C'est que vous disiez à la fois forme d'impossibilité de revenir sur ce terrain-là parce que trop lié avec une culpabilité liée à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et en même temps, geste de conservation.
Impossible à jeter. Alors, par exemple, au décès de mes beaux-parents, on était face à des boîtes à chaussures avec écrit dessus au ton à une écriture majuscule « document important ». Documents de famille importants. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on les garde pour les prochaines générations? Et c'est là où j'ai joué, moi, un rôle, peut-être, dans cette belle famille. Parce qu'ils avaient, eux, de la peine à regarder ces archives, à s'y intéresser. Peut-être parce que, à cause de la biographie des uns et des autres. Et moi, peut-être, avec ma perspective extérieure, en tant que non-allemande, aussi mon décalement en termes de génération, parce que je suis beaucoup plus jeune que mon beau-frère aîné. Oui, parce que dans ce genre de famille, des choses comme le droit d'aînesse continuent à compter, vous voyez. Donc, alors, bizarrement, pour tout ce qui relevait des archives familiales, c'était mon beau-frère aîné à qui on devait se consulter comme si il avait encore un château, alors qu'il restait plus que ses boîtes à chaussures avec des documents poussiéreux.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes à chaussures? Une des choses qui...
Il y avait beaucoup de lettres, il y avait beaucoup de documents, et ce qui était peut-être le plus intéressant, c'est les lettres que j'ai retrouvées du dernier propriétaire de la bibliothèque, qui s'appelait Karl, et qui était en 45, il avait plus de 70 ans. C'était un vieux monsieur. Il avait perdu deux enfants déjà. Son fils, mon beau-père, était en Russie. Il savait pas s'il allait revenir. Il avait tout perdu. Et en fait, il avait pas très envie de vivre. Et je crois vraiment qu'il a voulu vivre ou il a voulu essayer de survivre à tout ça pour conserver. Et donc, tout son effort, toute son énergie est passé dans sa correspondance alors qu'il est exilé. Il est réfugié d'abord en Thuringe, puis en Schleswig-Holstein. Il écrit des lettres pour essayer de retrouver des documents épars de sa collection. Et il a en tête un espèce d'ordre idéal, qui est l'ordre qu'il a conçu avec son catalogue. Et il écrit des lettres d'une précision incroyable à des directeurs de musées à Leipzig en disant « Mais comment se fait-il que cette carte qui était A4, B3, machin, se trouve pas exactement à côté de cet autre document ?» Donc il a de la... Et c'est une correspondance avec le directeur du musée de Leipzig qui m'a beaucoup intéressée. Et qui au-delà de cette histoire familiale singulière, est intéressant sur l'histoire, pour l'histoire de la culture.
Oui, exactement, l'histoire de la culture, et à vous écouter, Vanessa de Sénarclan, on entend aussi l'histoire de la pensée. C'est-à-dire que tout ça, et peut-être on n'a pas encore assez parlé des femmes, mais tout ça, ce sont aussi des hommes qui organisent des livres ensemble, qui ont une idée sur comment des livres correspondent ensemble, comment des livres parle du présent, donc en l'occurrence le 18e, la place des Lumières, la place que tient l'importance d'une publication dans telle ou telle géographie, là où elle est empêchée ailleurs, puis comment est-ce que constituer une bibliothèque, c'est parler d'un pays perdu, plus ou moins imaginaire. Enfin, et là, on entend bien dans le combat, on va dire, dans le combat correspondance que mène ce Karl, il y a encore l'effort de penser, l'effort de mettre des livres ensemble, l'effort de continuer de penser des collections. On sent qu'il y a aussi quelque chose de cette énergie-là qui bat dans votre livre.
Oui, absolument. Et son ordre, c'est sa vision du monde, c'est sa compréhension du monde. Et c'est le travail de sa vie. Enfin, il le décrit lui-même comme l'œuvre de sa vie. C'est l'œuvre de sa vie, ce catalogue.
Il y a un parallèle qui arrive à la fin de votre livre, La bibliothèque retrouvée. Cet effacement, cette dissémination, effacement par dissémination de la collection de la bibliothèque, et qui fait un écho particulièrement tragique avec la disparition des Juifs et de la culture juive de Poméranie.
L'histoire des Juifs de Poméranie, plus encore celle des Juifs de Poméranie orientale, n'a pas de lieu de mémoire. Les rares sources sont éparpillées aux quatre vents, dans différentes archives nationales de Pologne, de Russie, d'Allemagne, d'Israël ou d'ailleurs. On retrouve Plateux mentionné comme lieu d'origine dans des bases de données d'émigrés partis en 1935 à Joinville au Brésil sur un bateau anglais, ou dans le parcours tragique d'un rabbin trouvant refuge à Shanghai avec sa famille et qui meurt à l'arrivée, épuisé par les changements de climat. Un livre de la fin du 19e siècle mentionne l'existence d'une petite communauté mosaïque à Plateux qui exerce ses pratiques religieuses dans un local loué et possède un lieu de sépulture au sein du cimetière municipal. Mais dès le début des années 30, des groupuscules de SA déferlent en uniforme dans la rue principale pour terroriser la population juive, qui en 1932 s'élève à 16 personnes. Le 1er avril 1933, le gouvernement appelle au boycott des deux magasins juifs. Celui de Sigmund Arndt à la Wilhelmstrasse, celui de Walter Hirsch à la Kreuzstrasse. Que sont-ils devenus? Sur une liste des survivants de l'Holocauste, j'ai trouvé le nom d'une Rosa Ferham, née à Platte le 8 décembre 1894. A-t-elle été déportée directement? Ou avait-elle quitté la ville en 1933 pour se réfugier à Berlin, qui longtemps passa pour plus sûr? Les sources administratives sur les années nazies en Poméranie ont été délibérément brûlés par les responsables nazis afin d'effacer leurs crimes, ou dans certains cas emportés par l'armée rouge vers Moscou dans des convois militaires où elles se trouvent toujours, plus que jamais inaccessibles depuis la guerre contre l'Ukraine.
Votre texte prend un virage particulier. À ce moment-là, Vanessa de Sénarclan, la bibliothèque retrouvée qui travaille tant cette question de la disparition et de la lutte contre l'effacement, en produisant l'idée qu'il est possible de transmettre y compris ce qui a disparu, puisque c'est ça que fabrique le livre, la transmission de cette bibliothèque, même si elle n'est plus rassemblée. En l'occurrence, il y a quelque chose qui a complètement disparu, et de manière tragique, c'est cette culture juive, ce sont les familles juives de cette région-là. À partir de quel moment les deux s'entrecroisent pour vous dans votre écrit?
Je me suis intéressée en particulier à un des libraires chez lequel s'approvisionnait le dernier propriétaire de la bibliothèque, Karl.
Notamment dans cette correspondance.
Voilà. Et alors, Karl était en lien et avait avait une amitié avec Martin Breslauer. J'ai retrouvé aux archives une lettre qui témoigne de cette amitié. Ils avaient fêté ensemble leur anniversaire. Ils étaient proches. Et je crois que Martin Breslauer approvisionnait Karl en livres rares et s'occupait de ça. Breslauer était un homme extrêmement important dans les années 20, dans les années 30. Il avait la plus belle librairie de livres anciens sur la Franzose Hechestrasse. Il était connu de tout le monde. On disait c'est l'empereur du livre, le Kaiser du livre. Et il faisait partie de toutes les associations de bibliophiles. On lui demandait son avis d'expert quand il s'agissait d'acheter une collection. Quelqu'un qui avait vraiment pignon sur rue et qui évidemment, avec les lois racistes, perd tous ses privilèges, perd ses droits en fait. Il perd tous ses droits et peine parce qu'il est tellement attaché à la culture allemande. Il aime la culture. Il est allemand. Il se sent allemand et il peine à comprendre la folie qui est en cours. Et donc il part in extremis en 1936 dans un des derniers trains peut-être vers la Hollande puis l'Angleterre et meurt de manière tragique en Angleterre en 1940 suite à un bombardement. Donc une figure absolument tragique. Et ce personnage, cet homme m'a beaucoup intéressée parce que il essaye à Londres, après avoir perdu sa magnifique librairie et toute sa collection, il essaye de refonder un magasin. Il se dit il faut continuer. Et son fils reprendra aussi la relève et aura lui-même un magasin de livres rares à New York. Donc, vous voyez, cette espèce de persévérance et me touche et j'ai essayé de reconstituer un peu les éléments principaux de sa vie.
Mais en faisant l'hypothèse que Karl et autour de lui, les familles et ce milieu-là, quel niveau de conscience de ce qui menace les familles juives à ce moment-là ?
Bon, c'est très très difficile à savoir, mais je pense quand même qu'il devait y avoir, quand même d'assez clair. En Poméranie, les familles juives ont été très très maltraitées très vite, plus vite qu'ailleurs en fait. Et donc c'était difficile de ne pas le savoir. Elle disparaissait comme ça d'un jour à l'autre, sans laisser de traces. Donc, je pense que si on avait un peu de culture, qu'on arrivait à avoir une culture, qu'on avait une culture politique, on pouvait très bien s'imaginer que quelque chose de terrible était en train de se passer.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas dans la culpabilité dont vous parliez tout à l'heure qui pouvait éventuellement expliquer l'hésitation à réouvrir ce grand dossier de cette grande bibliothèque de Poméranie, quelque chose qui a à voir avec la manière dont cette région elle a été décimée et particulièrement pour ce qui est des familles juives?
Absolument, absolument. Je pense que c'est lié à cette culpabilité, à cette difficulté à se souvenir de quelque chose de beau et de quelque chose d'avant.
Ouais, voilà. Ça cohabite trop. Il y a quelque chose, d'ailleurs, vous le racontez, c'est finalement être capable de se retourner vers le passé, c'est être capable ou avoir la chance de retrouver ces 16 000 ouvrages et la connaissance et les humanités et les lumières, mais il faut aussi être capable de regarder l'horreur.
Oui, et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pas essayé de faire une hagiographie familiale, je voulais en tout cas pas le faire ça, et je voulais être le plus honnête que possible.
On va écouter la voix de Vincent. Il vous a lu Vanessa de Senarclan et justement, il vous pose une question sur, on va dire, cette grande expérience qui a été pour vous l'écriture de ce livre.
Bonjour le Book Club, bonjour Vanessa de Senarclan. Votre écriture sensible permet de comprendre qu'une bibliothèque n'est pas seulement un lieu de savoir, mais un territoire où peuvent se cacher des secrets et surgir des révélations. La question que j'ai envie de vous poser est la suivante. En reconstituant cette bibliothèque, s'agissait-il pour vous de comprendre son histoire ou de donner une voix aux disparus ? En somme, êtes-vous plutôt bibliophile ou généalogiste ? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Vincent, pour cette lecture et cette question qu'on attrape comme question de la fin, Vanessa de Senarclan. Alors, il y a bibliophile, généalogiste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot, finalement, pour définir votre grande entreprise de recherche et d'écriture ?
Je préférais celui de culture. de recherche dans le domaine de la culture. Et il y a une citation de Goethe qui dit « Ce que tu as hérité de ton père, acquiers-le pour le posséder. Hein » Donc acquiers-le, approprie-le-toi, fais-en quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait pertinent. Donc oui, il s'agit d'hommes et de femmes qui ont aimé des livres, qui les ont choisis, qui les ont lus, mais il s'agit aussi d'une famille et il s'agit bien évidemment d'un projet qui est celui d'une bibliothèque qui perdure pendant plus de 2 siècles. Et c'est tous ces éléments. J'y répondrai à la question en disant, oui, tant les hommes que les livres, que l'histoire de la culture en général.
Et justement, vous publiez ce livre en 2025, Vanessa de Senarclan. On est 80 ans après cette date de mars 1945 et on peut dire que dans le monde, aujourd'hui, y compris dans des grands pays démocratiques, le sort des bibliothèques est chahuté, le sort de la recherche est chahuté, le sort de la culture est chahuté, le sort de la pensée et du poids que cela peut occuper dans nos existences humaines est plus que chahuté. Est-ce que vous faites un lien entre le moment où vous produisez cet écrit-là et vous publiez ce livre-là, et on va dire tout ce qu'on a dit pendant cette heure-là, ou qui ne réserve pas un sort on va dire protecteur aux entreprises de la pensée?
Bon, ce qui se passe avec la censure aux États-Unis est déplorable, mais j'avoue que ce que j'avais en tête en écrivant ce livre, c'était plutôt la guerre en Ukraine, le bombardement de maisons d'édition, de bibliothèques.
La destruction
volontaire de lieux de culture. En voulant détruire la culture ukrainienne, on veut lui enlever sa capacité à résister, en fait. Et donc ça, j'ai trouvé ça très, très troublant, en fait, d'être plongée dans des documents qui parlaient de destruction de bibliothèques.
Comme d'entreprises velléitaires d'effacement.
Voilà, et d'être confrontée à cette nouvelle folie qui gagne le monde avec l'invasion de l'Ukraine en 22.
On avait hier à notre micro une jeune poétesse et caporale de l'armée ukrainienne qui disait à quel point il y avait dans la lecture et la production de poésie contemporaine aujourd'hui en Ukraine un véritable geste de résistance.
Mais c'est formidable, c'est absolument formidable. Je crois que Olga Tokarczuk, qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années, est revenue récemment de Kiev où elle a assisté à une réunion avec des poètes et des écrivains ukrainiens. Et elle est revenue enthousiaste de l'énergie, du caractère vivace de cette culture qui est tellement menacée.
Donc la jeune femme hier, elle avait 30 ans et je peux vous dire que c'était particulièrement bouleversant de l'écouter. Le book club continue. Et dans le Book Club, régulièrement, nous faisons le relais d'événements relatifs justement aux livres, aux bibliothèques, à la lecture, à l'écriture. Vous pouvez nous envoyer des informations via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com ou si vous êtes plus usagé des réseaux, passez par Instagram. On voulait vous parler de deux choses aujourd'hui. La 10e édition des Bibliothèques Idéales, ça a lieu jusqu'au 5 octobre à Strasbourg. Les Bibliothèques Idéales reviennent dans divers lieux de la ville, l'église Saint-Guillaume, au Parlement européen, dans les médiathèques, dans les librairies de Strasbourg. Au programme, plus de 70 rencontres, débats, lectures, spectacles, déjeuners littéraires, croisières même et ateliers participatifs. Et le thème des Bibliothèques Idéales aujourd'hui en 2025, c'est « Indignez-vous » pour honorer les voix qui se lèvent, les récits qui dérangent, les mots qui transforment, bref, célébrer la littérature dans ce qu'elle a de plus vivant. C'est en écho avec la conversation qu'on vient d'avoir. Et puis notre deuxième événement, c'est la 13e édition du festival VOVF qui célèbre, lui, l'ensemble des traducteurs et des traductrices, la circulation des voix des auteurs et des autrices du monde entier. Le festival VOVF se déroule à Gif-sur-Yvette. Et la marraine de cette édition aujourd'hui, c'est Neige Sino. On pourra l'entendre dans un grand entretien à 18h30. Je ne sais pas la date, ce n'est pas marqué sur mon papier. Mais je me souviens qu'elle s'était auto-traduite pour son livre paru aux éditions POL qui s'appelait La Realidad. On peut même la réécouter dans le book club franceculture.fr.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a tellement parlé de livres aujourd'hui avec vous, Vanessa de Saint-Arclan, que je peux vous dire que nous jouons, nous continuons d'avoir l'esprit joueur avec les livres dans le Book Club et nous proposons à nos auditeurs et auditrices de jouer au grand jeu des pages musicales. Vous avez peut-être rencontré, certainement d'ailleurs vous en parlez, des évocations d'air musical, peut-être même des partitions dans cette grande bibliothèque bâtie au XVIIIe siècle, depuis le XVIIIe siècle. Mais on a trouvé de la musique dans votre livre. On se quitte donc avec un extrait de la bibliothèque retrouvée. Lors d'une visite au Geheimes Stadtarchiv, où je retourne régulièrement pour mes recherches, en attendant des documents commandés, je longe, à pas de loup, l'auguste salle de lecture, m'inclinant devant les bustes en bronze de Monsieur Moustachu, dont les socles jalonnent les travées. Quand tout à coup, mon regard s'arrête sur trois gros volumes rouges consacrés aux francs-maçons de Prusse. Par acquis de conscience, et pour faire passer le temps, je consulte l'index à la lettre O et découvre de nombreuses entrées sous Osten Friedrich Wilhelm V.D. Un franc-maçon saperlipopette. Sur les francs-maçons, je ne sais rien. Quelques associations vagues, entre elles contradictoires, se bousculent dans ma tête. Ma mère parlait des francs-maçons comme de personnes peu recommandables. « C'est sûrement un franc-maçon », disait-elle, plongée dans le journal de Genève, d'un air désapprobateur. Dans un registre plus positif, il y a le personnage de Pierre dans « Guerre et paix » de Tolstoï, transformé par sa rencontre avec un franc-maçon au cours d'un trajet en calèche entre Pétersbourg et Moscou. Il y a aussi Sarastro dans « La flûte enchantée » qui, de sa voix de baryton, appelle à repousser les ténèbres de la nuit. Mozart et son librettiste appartenaient tous deux à une loge viennoise acquise aux idées des Lumières. J'essaie d'aborder la question en historienne, mais je me trouve vite embarquée comme Tamino dans un univers étrange qui met à mal mes repères, emportée que je suis dans un pays imaginaire entre vallon et montagne, avec ses personnages insolites, ses rites de passage et ses portes fermées qui, miraculeusement, finissent par s'ouvrir quand même. Comme quoi, il y a de la musique qui se cache partout, entre les lignes, y compris dans votre livre, Vanessa de Saint-Arclan. Merci beaucoup d'avoir été avec vous et avec nous pour parler de la bibliothèque retrouvée, une enquête parue aux éditions Zoé. Au son aujourd'hui, c'était Paul Guig à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions. Garance Roubieux, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléo, Cyril Marchand et Alexandre Alaï-Begovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.